Cette semaine, j'ai eu une soirée de libre et j'en ai profité pour regarder Netflix. Et alors, pour ceux qui connaissent la série The Last Kingdom, épisode 4 de la saison 5, soyons précis, une des personnages principales, nommée Brida, qui est une viking, perd son enfant dans un accident et crie au prêtre catholique « Pourquoi mon enfant est mort ?» Si tu existes, si le Dieu des chrétiens existe, pourquoi mon enfant est mort ? Et voilà, il y a toute une scène assez terrible où elle s'en prend au prêtre avec cette question, pourquoi mon enfant est mort ? Alors, j'ai pas regardé l'épisode suivant, donc je ne peux pas vous dire comment ça se finit. Mais quoi qu'il en soit, cette question de pourquoi le mal ? Pourquoi tel accident ? Pourquoi tel drame ? Pourquoi tel cancer ? Pourquoi telle guerre ? Pourquoi tel virus ? Pourquoi quel tremblement de terre ? C'est des questions qu'on se pose, qu'on soit un viking sur Netflix, ou qu'on soit à Carpentras, à Cavaillon ou ailleurs, que l'on soit chrétien ou non, que l'on soit petit ou grand, que l'on ait des années et des années de vie chrétienne, ou qu'on soit jeune converti, des questions qui nous dérange et qui nous questionne. Si le Dieu qu'on a chanté ce matin existe, si le Dieu bon, plein d'amour qu'on a chanté ce matin existe, alors pourquoi le mal ? Voilà, à Cavaillon, on a eu quelques frères et sœurs pris dans des cancers. Hier, j'étais avec un groupe d'amis et dont un est décédé soudainement il y a un an. Pourquoi ? Les questions qu'on se pose tous, et je vous propose modestement d'y réfléchir ce matin, je n'aurai pas 100% de la réponse, mais on va regarder en Luc 13 comment Jésus, à travers deux drames, ce que Jésus répond à cette question. Et on va voir, et ça va être mon axe de réflexion, que le mal est un rappel de notre nature déchue, mais aussi et surtout un appel à se tourner vers Dieu. Un rappel et un appel. Et je vous invite à lire donc les 5 premiers versets de Luc 13. 5 premiers versets de Luc 13. Et je lis dans la version second 21. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens et dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. » Ou bien, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, mais je vous le dis. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Voilà, on s'arrête là pour la lecture. Alors, de ce qu'on comprend du passage, c'est que, bon, je ne vous apprends rien, mais à l'époque, il n'y avait ni BFM TV, ni l'AFP, ni TikTok. Et pour apprendre les nouvelles, c'était le bouche à oreille. Et donc là, on comprend qu'il y a quelques personnes qui sont venues voir Jésus pour lui informer d'un drame, d'un fait divers. Aujourd'hui on verrait ça dans la rubrique fait divers, le fait divers de plusieurs Galiléens qui ont été a priori tués, massacrés par Pilate et ses troupes. Quelques mots de contexte, ça fait un siècle environ que la Palestine est occupée par les troupes romaines et est sous administration romaine. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une garnison romaine qui est là pour maintenir la paix et récolter les impôts. Bon, maintenir la paix, vous comprenez l'expression, hein, ce que ça veut dire. Poutine, il a dit la même chose quand il est arrivé en Ukraine. Hein, je vais maintenir la paix. Pilate, il est là pour ça, et c'est le préfet, et il est connu pour sa violence et sa cruauté. Alors ce jour-là, on ne sait pas exactement, on n'a pas plus de détails sur qu'est-ce qui s'est passé, mais a priori, y a quand même un certain nombre de personnes qui ont été tuées, massacrées par Pilate et ses troupes. On ne sait pas plus au final. Mais on comprend à la réponse de Jésus qu'on était venu voir Jésus, lui rapporter ce fait divers, non seulement pour l'en informer, mais peut-être pour avoir sa réaction. Un peu comme aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, les journalistes vont voir les candidats, leur racontent quelque chose et ils attendent une réaction. Voilà, est-ce qu'il va tomber dans le piège? Est-ce qu'il va dire un scoop? Là, c'est la même chose. Bah, Jésus, si tu prétends être le libérateur d'Israël, si tu veux critiquer les Romains, on te donne une occasion rêvée. Vas-y, prends position, critique Pilate. Et peut-être aussi qu'on est venu lui rapporter ce fait divers pour lui dire pourquoi le mal, pourquoi c'est arrivé, pourquoi. Parfois le mal qui nous touche est causé par d'autres personnes spécifiquement. Pilate en l'occurrence, aujourd'hui on pourrait dire Poutine ou je ne sais qui, on parle dans ces cas-là d'un mal moral, d'un mal causé par quelqu'un envers nous. Et parfois, le mal qui nous scandalise n'est pas forcément dû à une personne en particulier. Un tremblement de terre, un virus, un accident, un cancer, c'est pas forcément une personne. On parle dans ces cas-là de mal naturel. Et c'est d'ailleurs à cette seconde catégorie, à cette seconde catégorie que Jésus étend la réflexion dans la suite de sa réponse. Vous me parlez de Pilate et de ses Galiléens, mais regardez, pour les 18 à Siloé, la question est exactement la même. Et à Siloé, ce n'est pas de la faute de quelqu'un, ce n'est pas un mal moral, c'est un mal naturel. Simplement, voilà, les matériaux se dégradent, une fissure a dû se propager dans le ciment avec l'érosion, et progressivement, c'est de la faute de qui? De la physique des matériaux, tout simplement. Ce n'est pas de la faute de Pilate ou de je ne sais qui. Parfois, le mal qui nous touche est dû à quelqu'un d'autre. Parfois, le mal qui nous touche est dû simplement à rien, j'ai envie de dire. Mais peu importe l'origine exacte de ce mal, moral ou naturel, Jésus, vous avez remarqué dans nos textes, il va apporter la même réponse, la même réflexion. Il ne fait pas de distinction et la même application, et il va en arriver à un même rappel. Mais d'abord, regardons ce que Jésus ne répond pas. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, si Bernard, on t'avait posé cette question? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on aurait répondu? Premièrement, Jésus, vous avez remarqué qu'il n'accuse pas spécifiquement Pilate, ni les constructeurs de la tour de Siloé, en disant « c'est de leur faute à eux ». Aujourd'hui, quand il y a un problème, quand il y a un accident, tout de suite, on va trouver le cabinet d'architecte de la tour de Siloé, on va mettre un procès, et tac au moins, il nous faut un coupable. Derrière chaque dysfonctionnement de notre monde, il doit avoir un coupable. Et donc on fait un procès et on est tranquille. Jésus ne fait pas ça. Il n'accuse ni Pilate, ni les constructeurs de la tour de Siloé, ni la physique des matériaux. Deuxièmement, et c'est également surprenant, Jésus n'accuse pas ou n'accable pas ces Galiléens ou ces 18 personnes à Siloé. Il ne leur dit pas, c'était de leur faute. Elles avaient dû faire quelque chose de mal, la veille au soir, elles avaient dû rater quelque chose, et donc Dieu les a punies, bien fait pour elles. On peut entendre ça aujourd'hui. L'idée d'un Dieu qui punirait instantanément, ici-bas, c'est les personnes qui lui désobéissent. C'est une idée encore bien ancrée, ce côté de je fais quelque chose de mal, donc je mérite une punition. C'est encore ancré dans bon nombre de religions. Par exemple, vous connaissez le principe de l'hindouisme avec la réincarnation. Si tu as raté ta vie, ta réincarnation prochaine, elle sera pire, elle sera mauvaise, mais tu l'as méritée. Et si aujourd'hui tu es dans une situation galère, c'est probablement que tu l'as méritée parce que dans ta vie précédente, c'est toi qui as dû rater quelque chose. Jésus ne fait pas ça. Mais bon, on parle de l'hindouisme, mais regardez dans le livre de Job, les amis de Job, ils tiennent la même réflexion, hein. Si t'arrives tous ces malheurs, c'est parce que tu as dû faire quelque chose. À vous, Dieu te punit. C'est de ta faute. Les amis de Job lui ont dit la même chose. Donc Jésus n'accable pas ces 18 personnes ou ces Galiléens. À l'inverse, il ne dit pas qu'elles étaient innocentes et parfaites. Aujourd'hui, quand un drame arrive, en particulier quand après arrive le moment de la cérémonie des funérailles, alors souvent le réflexe humain est d'attribuer aux victimes toutes les qualités possibles. C'était une personne merveilleuse, c'était une personne parfaite, c'était une personne aux qualités innombrables. On fait cela pour accorder toute l'innocence nécessaire et crier à la justice. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Il ne béatifie pas post-mortem les personnes. Il ne leur donne pas la Légion d'honneur a posteriori sous prétexte qu'il leur arrivait un drame, un peu comme compensation de ce qui leur arrivait. Au final donc, ce que Jésus ne fait pas, c'est qu'il ne cherche pas une explication individuelle, spécifique, rationnelle, pour expliquer tel fait divers et tel fait divers. Au contraire, ce que Jésus va faire, il ne va pas chercher une réponse individuelle, mais il va plutôt dézoomer. Voilà, moi j'aime beaucoup la photographie, et il y a certaines photos où on a besoin de zoomer, et pour d'autres, pour comprendre une scène, il faut dézoomer. Et c'est ce que Jésus fait au verset suivant. Et il pose la question, verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que les autres Galiléens ?» Et les 18 à Siloé, étaient-ils plus pécheurs que les autres ? Non. Donc il élargit la scène, il élargit la réflexion. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Que ces Galiléens, ces Galiléens, n'étaient ni parfaitement innocents, on l'a vu, ni spécifiquement coupables plus que vous et moi, on l'a vu. Et donc, en conséquence, ses auditeurs à lui, les autres Galiléens, les autres habitants de Jérusalem, les autres, c'est-à-dire nous, pourrions subir la même chose. Et c'est vrai, après tout. Qu'est-ce qui dit que dans un quart d'heure, ce plafond ne va pas s'effondrer ? Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas avoir un accident de la route tout à l'heure ? Qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas apprendre un diagnostic médical dans quelques jours ? On n'est pas plus à l'abri que ces Galiléens ou que ces personnes de Siloé. Nous serions tous aussi coupables, ce que dit Jésus, hein, nous serions tous aussi coupables que ces Galiléens ou que ces personnes de Siloé. Coupables de quoi ? Vous êtes coupable de quoi ? Vous avez fait quelque chose de méchant ce matin ? Coupable de quoi ? De nouveau, il nous faut dézoomer. Il nous faut dézoomer. Et la Bible, ce que Jésus nous dit, ce que la Bible nous dit, c'est que nous sommes, les humains, nous, au sens large, mais aussi au sens individuel, nous sommes tous coupables d'avoir rejeté Dieu. Nous sommes coupables d'avoir prétendu nous passer du Dieu parfait. Et ça, c'est dès le début, dès Genèse 3, pas besoin d'aller bien loin dans la Bible, dès Genèse 3, et encore aujourd'hui, l'homme ne veut pas du Dieu parfait, n'en fait qu'à sa tête. Et l'humanité entière est concernée, vous et moi, qui dans sa vie, à un moment ou à un autre, n'a pas rejeté Dieu, ignoré Dieu, s'opposé à Dieu. On l'a tous fait d'une manière ou d'une autre. Donc en ce sens-là, nous sommes tous concernés par cela. Et dès lors, tel un grain de sable dans une horloge qui dérègle tout, à partir du moment où le mal est rentré dans l'humanité, alors l'humanité fonctionne mal. Telle une horloge déréglée. Alors ça se concrétise parfois par des crimes, ça se concrétise parfois par des guerres, parfois par des tours qui tombent, parfois par des virus qui circulent. Et ces drames qui nous touchent ne sont que la conséquence, que le symptôme d'un mal plus grand qui est là. Le mal d'une humanité qui voudrait un monde parfait, mais sans le Dieu parfait. Le mal d'une humanité qui n'est pas parfaite elle-même, mais qui voudrait que le monde soit parfait. Le mal, donc, d'une humanité autant victime que responsable. Elle est autant victime que responsable. Ma fille, hier, a joué, a fait de la trottinette, elle était pieds nus dehors, elle s'est roulée sur le pied où j'ai pas trop compris, et aujourd'hui, elle boite, elle a mal au pied. Elle est victime et responsable. Elle est victime de la du fait d'avoir voulu faire de la trottinette pieds nus, je ne sais pas ce qui lui a pris, quoi. Forcément. Ça, voilà. Notre humanité est autant victime que responsable. Alors si Dieu existe, pourquoi le mal ? Cette question se la pose, et on comprend que Dieu, oui, nous a créés libres et qu'il nous a laissé le choix entre le bien et le mal, avec l'arbre de la connaissance. Mais nous avons décidé, qu'on habite en Galilée ou qu'on habite à Carpentras ou à Cavaillon, l'humanité a décidé de rejeter le Dieu parfait et d'en faire qu'à sa tête. Et dès lors, la présence du mal est un rappel que nous avons une nature déchue. un rappel que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. Peu importe son origine, que ce soit un mal moral ou naturel, notre monde est désormais imparfait, depuis que nous avons voulu rejeter le Dieu parfait. Un peu comme un court-circuit récurrent sur un circuit électrique. Il y a le tableau électrique, ça saute toujours. C'est un symptôme, un rappel que quelque chose va mal, qu'il y a un problème dans les branchements, je ne sais pas où, mais quelqu'un qui verrait un tableau où ça s'espace de disjoncter, ça rappelle que quelque chose va mal, quelque chose plus profond. Il ne faut pas accuser le tableau électrique, il n'y est pour rien lui, hein, d'accord ? Donc, première partie, le mal est un rappel de notre nature déchue et du monde imparfait dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais si le mal est un rappel, il est surtout un appel à se tourner vers Dieu dès aujourd'hui. Et pour cette deuxième partie, laissez-moi commencer avec une illustration. Imaginez que dans quelques instants, là à l'instant, un feu se déclenche au milieu ici, là. Un incendie se déclenche. Les flammes commencent à monter. Les cheveux de Jean commencent à roussir un peu. La barbe de Bernard commence à frisoter un peu. Il fait de plus en plus chaud, les flammes montent. Quelle est la question que vous allez vous poser ? Si Dieu existe, pourquoi l'incendie ? Qui est responsable de cet incendie ? Quelle est la température de la flamme ? Dans combien de temps le plafond va-t-il s'effondrer ? Est-ce que le bâtiment était aux normes ? Pourquoi Jean ? Quelle est la question que vous vous poseriez ? L'incendie avance dans l'allée. Quelle est la question que vous allez vous poser ? Elle est où la sortie ? Comment se sauver ? Comment échapper à ce mal ? C'est ça la priorité. Vous croyez que quand le Titanic a frappé l'iceberg, la priorité était de savoir quelle était la taille de l'iceberg, qui était l'origine, où on était ? Non, la priorité c'était de se sauver du Titanic. Pas de philosopher sur la glace versus le métal ou je ne sais quoi. L'objectif de la venue de Jésus sur terre n'est pas de nous apporter de belles réponses intellectuelles à tous nos pourquoi. L'objectif de la venue de Jésus sur terre n'est pas de répondre ou de jouer au philosophe, n'est pas de répondre à 100% des questions qu'on pourrait se poser. Alors oui, par rapport à la question du libre arbitre, il y a cette explication, par rapport à la question du mal, il y a cette explication du libre arbitre, de la liberté qu'on n'a pas saisie. Certes, mais des fois cette réponse nous laisse un peu, ouais, à moitié satisfait. Mais Jésus n'est pas venu pour jouer au philosophe, il est venu pour nous sauver de cet incendie. Il est venu pour nous offrir une solution et nous offrir une issue de secours. D'accord ? Vous connaissez tous Jean 3,16. Vous connaissez peut-être également Jean 3,17, c'est juste après. Dieu a envoyé son Fils, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ainsi, dans notre passage, Jésus ne se contente pas de nous inclure dans ce problème du mal, mais il nous propose une solution individuelle. Face à un problème collectif, une solution individuelle. Quelle solution propose Jésus ? Ou de nouveau ? Quelle solution ne propose-t-il pas ? Il aurait pu proposer une formule magique à réciter. Un peu comme dans la religion musulmane, on va dire cette phrase qui fait de nous un musulman et qu'on va dire pour rester. L'importance de dire une phrase, une formule magique. Ou alors Jésus aurait pu nous dire une liste de choses à faire. Ou alors un montant à donner dans l'offrande. Et c'est bon. Jésus aurait pu dire cela. Ou alors Jésus aurait pu nous donner un exercice d'hypnose et de méditation intérieure pour nous réconcilier avec nous-mêmes et l'univers. C'est à la mode, ça. Hein, c'est à la mode, hein, aujourd'hui. Jésus, il n'a pas fait ça. Hein, il n'a pas dit réconciliez-vous avec Dame Nature, hein, et tout ira bien. Loin de ces fausses solutions, Jésus nous en offre une, et elle s'appelle, verset 3, verset 5, la repentance. La solution que propose Jésus, c'est la repentance. Repentance, ça veut dire faire demi-tour. Demi-tour dans l'allée pour fuir l'incendie et aller à la sortie de secours. Voilà la solution que propose Jésus. Alors ça paraît simple, la repentance. Hein. Ça paraît simple. faire demi-tour. Ça paraît simple. Mais notre orgueil, qu'il est dur et que notre orgueil n'aime pas faire demi-tour. Hein ? On préfère des fois rester sur une fausse route plutôt que de faire demi-tour. Et voilà, sans stéréotype, hein, vous connaissez les... Voilà, tu vois, en volant, t'es chérie, t'es sûr que c'est le bon trajet, t'es sûr, oui, je dirais, et par orgueil, on va pas oser faire demi-tour, ou pas oser demander, et on va se perdre, hein. Qu'il est dur de faire demi-tour. C'est le prix de l'orgueil. Faire demi-tour, mais faire demi-tour vers quoi? S'il n'y a pas de porte de secours au fond, ça sert à rien de faire demi-tour, hein. S'il n'y a pas de porte de secours, si on doit changer de manière de vivre, mais il n'existe pas d'autre manière de vivre, c'est impossible. Si je vous demande d'arrêter de changer votre manière de respirer, Brice, change ta manière de respirer. Aujourd'hui, tu changes ta manière de respirer, tu fais comme tu veux, mais tu n'as pas le droit de prendre d'oxygène. C'est ridicule. Si Jésus nous demandait de changer, de faire demi-tour, de changer de manière de vivre, mais sans qu'il existe une autre manière de vivre, c'est du blabla, c'est du pipeau, n'est-ce pas ? Quand Jésus appelle à la repentance, quand il nous invite à faire demi-tour, c'est que oui, il existe une manière différente de faire et face au mal. Et en ce sens-là, le mal est un appel à nous tourner vers un Dieu sauveur, un Dieu saint et un Dieu rédempteur. Sans ça, ça ne sert à rien de demander de faire demi-tour. Premièrement, face à la question du mal, rappelons-nous qu'on peut se tourner vers un Dieu saint qui ne tolère pas le mal. Un Dieu saint qui ne tolère pas le mal. Jésus, dans ce passage, ne dit pas « Ouah, c'est pas grave. 18 personnes, 3 Galiléens, c'est pas grave. » Il ne s'en accommode pas. Aujourd'hui, nous, on vit avec notre pays, face au Covid, a fait le choix du vivre avec. On va vivre avec ce virus, on s'en accommode. Au début, on a essayé de lutter, puis maintenant, bon, on essaye de trouver une solution, et puis tant pis. Dieu, face au péché, il n'a pas dit ça. En Genèse 3, il n'a pas dit, « Ah, dommage, vous êtes allé manger du fruit, ah, c'est pas bon, allez, on va faire avec, on va essayer de trouver un... » Dieu ne tolère pas le mal, zéro. Et voilà pourquoi il le condamne si fermement, et qu'il est bon de savoir que notre Dieu est saint et ne tolère pas le mal, et ne s'en accommodera jamais. Dieu ne s'accommodera jamais du péché, ici-bas. Deuxièmement, face au mal, on peut se tourner vers un Dieu qui connaît lui-même ce mal et cette souffrance humaine. Il n'est pas en train de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. En Jésus-Christ, Dieu s'est incarné, a vécu à nos côtés, et il a eu affaire à pire que la méchanceté de Pilate ou la chute d'une tour à Siloé. Il a eu à faire face au rejet, à la persécution, à la tentation, à la faim, à la trahison, à la souffrance et à la mort. Personnellement, je ne prétends pas avoir vécu le dixième de cela. Le Dieu vers qui on veut se tourner est un Dieu qui connaît la souffrance, qui connaît le mal, et il n'est pas indifférent à cela. Quel réconfort ! Quel réconfort ! Et ce qui est encore plus chouette, c'est que face au mal, on veut se tourner vers un Dieu qui a décidé de prendre lui-même le prix de notre imperfection, le prix de notre prétention à vouloir vivre sans lui. De tout, dans ce monde qui ne tourne pas rond, Dieu n'est pas resté les bras croisés à dire « Bon, bah, débrouillez-vous avec ça, faites-moi signe quand vous êtes sortis et tout ira bien. » En Jésus-Christ, Dieu est venu prendre sur lui sa responsabilité pour pouvoir nous permettre d'avoir une portée de secours et fuir l'incendie. Waouh ! De nouveau, face au mal, quelle espérance et quelle réponse. Et également, dernièrement, la dernière espérance, le Dieu vers qui on veut se tourner est un Dieu qui un jour nous offre l'espérance qu'un jour il recréera un monde sans mal, sans larmes, sans deuil, sans virus, sans guerre et sans mort. Waouh ! Lisez les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Ça fait envie. Et voilà quelle est notre espérance, voilà l'espérance chrétienne, qu'un jour Dieu recréera un monde sans péché, sans mal. Alors pour résumer, si le mal est un rappel de notre nature déchue, il est également un appel à nous tourner vers un Dieu qui ne tolère pas le mal, vers un Dieu qui connaît personnellement le mal, qui a pris sur lui-même la responsabilité de ce mal et qui un jour refera tout à zéro, sans mal, sans virus, sans guerre. Waouh, quelle espérance. Alors sachons entendre cet appel à nous tourner vers Dieu. Que cet appel se fasse dans le fracas d'une tour qui tombe ou dans le silence d'un virus qui se propage. Sachons entendre cet appel à nous tourner vers Dieu. En conclusion, chers frères et sœurs, en conclusion, rien de plus que la difficulté de ces questions toujours d'actualité. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Pourquoi telle guerre ? Pourquoi tel cancer ? Pourquoi tel licenciement ? Pourquoi telle dépression ? Ce texte de Luc 13, vous l'aurez compris, montre que ça ne sert à rien de chercher une responsabilité individuelle, une explication spécifique à chacun du mal à chaque fois qu'on est face à un drame, ni d'y voir la preuve de l'impuissance ou l'inexistence de Dieu. Bien au contraire, le mal est un rappel que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde. On ne veut pas se satisfaire de ce monde-là. Le mal est un rappel que nous vivons dans un monde imparfait parce que nous avons refusé le Dieu parfait. Mais dans l'urgence et la violence d'un incendie qui se déclare, la priorité n'est pas à l'explication de tous les pourquoi, mais la priorité est à savoir comment s'échapper. Peut-être qu'un jour nous aurons l'explication, 100% des explications. Peut-être qu'un jour nous saurons effectivement pourquoi Dieu nous a laissé ce libre arbitre, pourquoi le mal a pris tant d'ampleur. Peut-être qu'un jour on aura l'explication, peut-être pas. Mais en attendant, notre priorité, notre espérance est de pouvoir faire demi-tour et s'éloigner de cet incendie, de ce mal grandissant. Le mal ici-bas est un vibrant appel à nous tourner encore et encore vers Dieu. Qu'à travers ces bruits de guerre qui se rapprochent, qu'à travers cette pandémie qui n'en finit pas, qu'à travers les épreuves individuelles qui peuvent être les vôtres à Carpentras, qu'un maximum de personnes entendent cet appel à se tourner vers un Dieu saint, sauveur et rédempteur. Et que nous concernant, nous puissions également faire preuve de compassion envers ceux qui sont touchés directement, ceux qui souffrent, et que nous puissions toujours plus leur témoigner du secours que Dieu veut offrir à chacun et à chacune. Amen. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous nous rappelons que tu avais créé un monde parfait, que tu avais créé un monde, un jardin où il n'y avait aucun problème. Et nous nous rappelons que c'est la responsabilité de l'humanité d'avoir voulu se passer du Dieu parfait. Et nous, à notre échelle, nous prenons aussi sur nous cette responsabilité de vouloir, à un moment ou à un autre, avoir cru vouloir vivre sans toi. Nous nous rappelons effectivement qu'aujourd'hui, les conséquences de ce mal sont nombreuses, nous touchent, nous frappent et nous déstabilisent. Mais nous nous rappelons face à cela que tu nous as offert, que tu nous offres la possibilité d'un secours. Quand Jésus-Christ, tu es venu être confronté, vivre et prendre sur toi toutes les conséquences de ce mal. Et nous nous réjouissons de cette espérance qu'un jour, tu recréeras un monde sans larmes, sans mort, sans virus, sans guerre, sans deuil. Ô Seigneur, nous avons hâte de ce jour. En attendant, Seigneur, apprends-nous à te rester fidèle, apprends-nous à toujours plus nous tourner vers toi. En attendant ce beau jour, Seigneur, où tu viendras nous chercher. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen.